Vous êtes sur Europe 1, il est 22h.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire.
Bonsoir. Nouveau rebondissement dans l'affaire Jubilard, la nouvelle compagne de Cédric Jubilard en garde à vue. Explication dans un instant. Le jour des départs en vacances de Noël, une grève à la SNCF. C'est pour vendredi. Le trafic TGV Sud-Est sera très perturbé. Détail dans ce journal. Pour la cinquième fois, le Covid hors de contrôle. Les chiffres se dégradent à l'approche de Noël. Nouveau conseil de défense sanitaire vendredi et de probables nouvelles mesures pour la fin de l'année. L'invité éco, justement, on recevra le patron d'AstraZeneca France alors que le labo propose un nouveau traitement anti-Covid, traitement préventif. La météo restera encore bien grise demain sur une large partie du pays. Enfin, on regardera les unes des quotidiens de demain matin.
Europe 1.
Le mystère résiste encore aux enquêteurs. Un an très exactement après la disparition de Delphine Jubilard près d'Albi. Mais voici, à cette date anniversaire, un nouveau rebondissement provoqué par les juges d'instruction. La nouvelle compagne de Cédric Jubilard, suspect numéro 1, a été placée en garde à vue. Elle est soupçonnée de complicité de recel de cadavres. William Molinier, que faut-il comprendre ?
Eh bien, cela signifie que les enquêteurs ont des soupçons concernant une éventuelle implication de cette femme dans la dissimulation du corps de Delphine Jubilard, ou à minima, qu'elle pourrait savoir où se trouve le cadavre, qualification qui a étonné son avocat, Johan Ricci.
Pour qu'il y ait recel de cadavre, encore faut-il qu'il y ait un cadavre. Donc, sauf à ce qu'on nous démontre le contraire, une qualification un peu précipitée de recel de cadavre sans qu'il n'y ait de cadavre ne tiendra pas longtemps la route. La pression médiatique est tellement importante sur ce dossier que forcément la justice et les services du parquet veulent montrer qu'ils sont toujours en action pour essayer de trouver la vérité dans ce dossier.
La suspecte s'appelle Séverine, elle est âgée de 44 ans. Elle s'est rapprochée de Cédric Jubilard au cours d'une battue organisée en début d'année. Ils se sont mis en couple en avril dernier, puis se sont affichés ensemble sur les réseaux sociaux, ce qui a choqué les amis de Delphine Jubilard. Elle a toujours soutenu son nouveau compagnon, y compris après son incarcération en juin. Depuis, tous les deux correspondent par courrier, des lettres regardées de très près par l'administration pénitentiaire. Cédric Jubilard a toujours contesté avoir tué son épouse.
William Molinier du service police-justice d'Europe 1. Où va la France ? Emmanuel Macron a accordé 2 heures d'interview à TF1 pour y répondre. L'entretien a été enregistré dimanche dernier. Il est diffusé ce soir dans un cadre très solennel sous les ordres de l'Élysée. L'opposition dénonce une atteinte à l'équité du temps de parole entre candidats à la présidentielle. Le chef de l'État fait durer un suspense très relatif sur sa déclaration de candidature. Les vacances de Noël approchent, la grève à la SNCF aussi. Ce n'est pas un hasard si la CGT Sud et l'UNSA ont choisi ce vendredi pour lancer cet appel à la grève. Un appel qui va sérieusement perturber le trafic TGV Sud-Est. Aurélien Fleureau, vous êtes à la gare de Lyon pour Europe 1. Quelles sont les prévisions de circulation ?
Oui, ce sera seulement un TGV sur deux ce vendredi sur cet axe sud-est où 100 000 voyageurs étaient attendus. Alors si votre train est supprimé, vous serez évidemment informé demain par SMS ou par mail. Et la SNCF a annoncé faire un geste commercial pour les clients concernés qui seront en quelque sorte remboursés deux fois. Si votre voyage a par exemple coûté 100 euros, eh bien vous toucherez 200 euros dont la moitié en bon d'achat. En ce qui concerne les négociations, elles semblaient proches d'aboutir positivement selon la direction. D'ailleurs, l'UNSA ferroviaire a décidé de sortir de ce mouvement de grève, mais par deux fois, la CGT cheminots aurait revu à la hausse ses revendications, alors que 600 euros ont été accordés aux conducteurs de cet axe sud-est. Une attitude inacceptable, estime Christophe Fanichet, le PDG de SNCF Voyageurs.
Ces négociations, elles n'ont pas abouti. Je tiens à le dire d'un mot extrêmement simple, c'est scandaleux. Scandaleux au moment où les Français ont le plus besoin de nous. Et nous ne serons pas au rendez-vous sur l'axe sud-est.
Et si vous voyagez sur cet axe samedi ou dimanche, eh bien vous serez informé à partir de demain du nombre de trains en circulation. Une grève qui survient alors que la SNCF va terminer une deuxième année de crise sanitaire financièrement dans le rouge. Et alors que ce samedi, précisément sur l'axe Paris-Lyon, la concurrence de Trenitalia fera circuler ses premiers trains.
Merci Aurélien Fleureau. Et ironie de la situation, cette grève intervient également au moment précis où Jean-Pierre Farandou, le patron de la SNCF, souhaite faire de l'année 2022 l'année du service client. Des difficultés pour prendre le train des vacances donc, et des inquiétudes aussi pour les réveillons en famille ou entre amis. La cinquième vague continue d'enfler, elle a poussé l'Élysée à réunir un nouveau conseil de défense sanitaire dès ce vendredi. Ce sont bien les derniers chiffres du Covid, encore une fois très inquiétants, qui dictent le tempo. Près de 66 000 contaminations l'information en 24 heures. Dès l'issue du Conseil vendredi après-midi, de nouvelles mesures anti-Covid devraient être annoncées. Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, prépare déjà les esprits.
Des décisions pourront être prises d'ici à la fin de la semaine, dans les prochains jours, des décisions supplémentaires dans plusieurs directions qui sont celles que vous connaissez. D'abord, la question de l'accélération, de la poursuite de l'accélération de notre campagne de vaccination et de rappel en particulier. Ensuite, des mesures de renforcement s'agissant de nos frontières. Et enfin, des recommandations claires pour traverser et pour passer les fêtes le plus convenablement possible dans notre pays.
Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, selon qui le nombre de patients en réanimation, qui ne cesse d'ailleurs d'augmenter, devrait atteindre les 4000 pendant la période des fêtes. Olivier Véran, lui, adresse ce message aux Français non vaccinés qui utilisent un faux pass sanitaire. C'est une main tendue du ministre de la Santé. La priorité, dit-il, n'est pas de punir, mais de prévenir.
Pour les Français qui disposent de faux pass, moi je pense que l'urgence est sanitaire. Et que je veux que nous puissions travailler un dispositif qui permettrait un système de repenti, c'est-à-dire que quelqu'un qui bénéficierait d'un faux document puisse se mettre en règle et qu'il n'y ait pas qu'il y ait abandon de poursuite. Ça me semble assez logique parce que l'urgence, c'est que les gens se vaccinent, soient protégés. Il ne faut pas que quelqu'un soit empêché de se faire vacciner parce qu'il aurait déjà un faux pass et qu'on lui dise « vous avez déjà eu vos deux doses » et que la personne se retrouve en grande fragilité. Je préfère que cette personne puisse aller se faire vacciner et qu'on efface l'ardoise plutôt que de donner le sentiment à cette personne que si elle se présente chez son médecin ou dans un centre, on va commencer par faire une procédure judiciaire avant de le protéger.
Olivier Véran, le ministre de la Santé. La vaccination pour tous les enfants, c'est souhaitable, estime Emmanuel Macron, mais c'est le choix des parents, rappelle-t-il. Alors que le gouvernement prépare justement l'ouverture de la vaccination à tous les enfants de 5 à 11 ans, il ne manque en fait plus que l'ultime feu vert des autorités sanitaires. La campagne de vaccination pour les enfants pourrait débuter dès ce 20 décembre. Depuis aujourd'hui, déjà, près de 400 000 enfants qui présentent un risque élevé de développer une forme grave de Covid ont commencé à recevoir le vaccin. Lionel Gougelot, vous en avait suivi au centre de vaccination de Valenciennes.
Oui, alors bien sûr, quand on a 9 ans comme Élise, la perspective de se faire piquer n'est pas forcément réjouissante.
J'aime pas me faire vacciner, du coup j'ai pas envie, mais à la fois j'ai envie pour protéger ma famille. À la fois j'ai pas envie, à la fois j'ai envie, c'est ça le truc.
En fait, c'est pour protéger sa grand-mère fragile que la petite fille a été amenée aujourd'hui par sa maman, Marie.
Ayant des proches concernés vraiment par une possibilité de forme grave, on s'est pas du tout posé la question, on fait confiance aux médecins.
Une évidence donc, comme pour la maman de la petite Maëlys, une petite fille lourde handicapée.
Maëlys est une enfant à risque. Lorsqu'elle est malade, ça dégénère toujours en hospitalisation. En plus, du fait de sa pathologie, elle ne supporte pas le masque dans son établissement. De ce fait, elle est plus que les autres à risque puisqu'elle ne porte pas de masque la journée. Et donc aujourd'hui, nous sommes soulagés de cette première dose.
Dans son box de vaccination strictement réservé aux enfants, Amélie, l'infirmière, pique tout en douceur les petits candidats au vaccin.
Je suis maman, j'ai un enfant de 4 ans. Du coup, je sais comment fonctionnent les enfants, mais ils sont pas trop stressés. Les parents non plus, ils viennent vraiment en toute sérénité, on voit.
D'autant que juste à côté, dans son chalet joliment décoré, le Père Noël en personne est là pour consoler les petits.
J'ai laissé mes lutins justement tout seul et je leur ai dit je m'en vais pour rassurer les enfants. Et bien entendu, un petit peu avant l'heure, il y a distribution de friandises et de jouets.
Et dès la mi-journée, les responsables du centre de Valenciennes ont passé commande de doses de vaccins supplémentaires pour pouvoir assurer les rendez-vous qui se sont ajoutés ces dernières heures.
Lionel Gougelot à Valenciennes pour Europe 1. Pour l'ensemble de la population, il est vraisemblable que nous allons aller vers des rappels réguliers. Voilà ce que prédit ce soir Emmanuel Macron. On apprend que le doyen des Français est mort du Covid à l'âge de 112 ans la nuit dernière à Vienne en Isère. C'est ce qu'a annoncé sa famille. Marcel Metz était devenu le 5 octobre dernier l'homme le plus âgé de France. Il vivait toujours chez lui. Le mouvement est rarissime dans le monde d'ordinaire feutré de la justice. Des milliers de magistrats, de greffiers et d'avocats protestent contre le manque de moyens chroniques de l'appareil judiciaire. Vous les avez peut-être croisés aujourd'hui dans leur robe noire. Ils étaient des centaines à se rassembler dans les rues de nombreuses villes de France pour dénoncer le manque de moyens, l'embouteillage des dossiers, l'attente interminable des justiciables, comme à Nice par exemple, sur les marches du palais de justice. Reportage Frédéric Michel.
Des dossiers jugés de longs mois après la commission des faits, des audiences interminables et un système informatique obsolète, la coupe est pleine pour Comme Jacquemin du syndicat de la magistrature à Nice.
Nous ne pouvons plus accepter de travailler dans des conditions que nous considérons indignes pour les personnes qui viennent attendre justice et pour nous-mêmes professionnels.
À Nice, quotidiennement, les magistrats se heurtent à un embouteillage de dossiers. Xavier Bonhomme, le procureur de la République.
Ce sont des audiences qui comportent des dizaines de dossiers avec la nécessité pour nous de passer un maximum de dossiers dans un temps réduit, avec la nécessité pour nous d'accorder que quelques minutes par dossier pour juger. Et aujourd'hui, on ne juge pas sereinement.
Et le malaise est profond dans tous les services. Céline est greffière au tribunal pour enfants de Nice.
On arrive en général entre 8h et 8h30. On part le soir, pas avant 19h. J'ai des collègues qui travaillent au juge de la liberté et de la détention qui partent à 22h30. D'autres qui partent à 2h du matin. On est obligé de juger des fois 50 dossiers. C'est des jours qu'on ne peut pas récupérer après. Donc moi, j'ai un collègue qui a fini hier à 2h30 et ce matin, il était au boulot à 8h30. On a plein de burn-out, des arrêts maladie à l'appel.
Malgré les efforts du gouvernement, le compte n'y est pas. Beaucoup estiment qu'il faudrait doubler le nombre de juges et greffiers, tripler le nombre de procureurs pour répondre aux standards européens.
Frédéric Michel à Nice pour Europe 1.
Europe Nuit. Alexandre Lemaire.
Si vous faites partie des ménages bénéficiaires, vous avez peut-être déjà reçu votre chèque énergie de 100 euros. Les premiers sont expédiés cette semaine. C'est toujours bienvenu, mais ça ne changera pas les prévisions de l'INSEE. En 2022, le pouvoir d'achat des Français va baisser. La flambée des prix de l'énergie y est pour beaucoup, Maud Descamps.
Oui, alors sur l'année 2021, déjà, notre facture d'énergie a augmenté, selon l'INSEE, de 30 euros par mois par foyer par rapport à 2019. La moitié de cette hausse est due à l'augmentation du prix du gaz, hein, plus 40% par rapport à 2019. Et puis, il y a le prix de l'essence. Hein, on dépense en moyenne 8 euros de plus par mois. Et vient s'ajouter à cela la hausse des prix de l'électricité. Et la situation ne devrait pas s'arranger en 2022, puisque l'INSEE table sur une perte du pouvoir d'achat, notamment parce qu'il y aura moins d'aide qu'en 2021, c'est-à-dire la rallonge de 100 euros du chèque énergie, ou encore les 100 euros de l'indemnité inflation qui commence à être versée ces jours-ci. Et sachez qu'à cette hausse des prix de l'énergie devrait s'ajouter celle des prix des produits manufacturés et des produits alimentaires. Début 2022, l'inflation devrait s'élever à 2,5% selon les dernières estimations de l'INSEE.
Maud Descamps du service économie d'Europe 1. À l'approche de Noël, Gérald Darmanin demande aux préfets de renforcer la sécurité devant les lieux de culte et les commerces, devant la menace terroriste et le risque accru de braquage de magasins. Le ministre de l'Intérieur ordonne en particulier la présence systématique des forces de l'ordre devant les lieux de culte chrétiens. Au procès des attentats du 13 novembre, la cour d'assises spéciale a entendu aujourd'hui la sœur des frères Klein. Ce sont eux, souvenez-vous, qui avaient enregistré les messages de revendication des attaques terroristes. Ils sont très probablement morts il y a 2 ans dans une frappe de la coalition internationale en Syrie. Elle-même radicalisée, Gladys Laffitte, leur sœur donc, est revenue sur la logique djihadiste qui a dominé la fratrie.
Oui, un exercice de vérité périlleux pour cette femme de 46 ans, le visage rond et souriant sous ses longs cheveux blonds. Elle assume totalement avoir été radicalisée depuis les années 2000, d'avoir pu penser par exemple que les attentats contre Charlie Hebdo étaient légitimes, que c'était bien fait pour eux, dit-elle, ou encore que le 11 septembre était un complot. Avec le recul, Anne-Diana Klein explique « De nous-mêmes, on a été à l'extrême, on est responsable de nos actes. Aujourd'hui, elle se dit victime de cette idéologie, avoir été manipulée. Pour moi, tout était vrai, j'ai pris une grosse claque lorsqu'elle apprend la mort de ses frères en 2019. Elle est alors détenue pour avoir voulu se rendre en Syrie. C'est grâce notamment à un aumônier musulman qu'elle ouvre les yeux, dit-elle. Un travail qui la pousse aujourd'hui à exprimer sa déception sur l'implication de ses frères dans cette monstruosité, je cite. Ça reste quand même mes frères. Le fait qu'ils soient décédés, ils ne seront pas jugés. C'est dommage qu'ils ne puissent pas avoir la prise de conscience que moi j'ai eue, conclut-elle sereinement.
Gladys Laffitte à la cour d'assises spéciale de Paris pour Europe 1. L'enquête après le terrible accident de la route qui a fait 1 mort et 20 blessés samedi soir à Paris quand un chauffeur de taxi qui se trouvait hors service dit avoir perdu le contrôle de sa voiture électrique Tesla. S'agit-il d'une défaillance technique du véhicule ou d'une faute de conduite? Eh bien, dans l'attente, le chauffeur a été mis en examen ce soir pour homicide et blessure involontaire. Les suites des incidents du match OLOM le 21 novembre dernier au Groupama Stadium. Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais, sanctionné de 10 matchs de suspension de bancs de touche, de vestiaire d'arbitre et de toute fonction officielle, dont 5 suspensions fermes. Tout cela pour son comportement lors du match contre Marseille, sanction dévoilée ce soir par la Ligue de football professionnel. C'est la fin d'un match tendu ce soir pour les Bleus et une bonne nouvelle, les Bleus qui décrochent leur ticket pour les demi-finales du Mondial féminin de handball, un match très disputé tout au long de cette rencontre face à la Suède, score final 31 à 26. Il est l'homme qui a sauvé le TFC, Pascal Duprat est maintenant appelé à la rescousse de Saint-Étienne. À lui de rallumer la flamme dans la lanterne rouge, nommé hier soir en remplacement entraînement de Claude Puel. Il a dirigé dès ce matin son premier entraînement, non sans optimisme pour la suite d'ailleurs.
Je suis très fier d'avoir été choisi en qualité d'entraîneur de l'AS Saint-Étienne. Je conçois que certains puissent douter, je parle de ma corporation, mais personnellement, l'AS Saint-Étienne, c'est pas possible de refuser. C'est un club avec ses particularités, avec une des supporters sans égal en France, et qu'il convient d'associer à cette volonté de rédemption. Si l'AS Saint-Étienne, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi j'emploie le conditionnel, parce que ce n'est pas de moi ça, puisque nous allons nous maintenir, c'est parce que chacun d'entre nous aura donné le meilleur de lui-même.
Pascal Duprat avec Anthony Pétrel. Le temps pour ce jeudi, Marlène Duret, ça va rester bien gris sur une bonne partie du pays. On va essayer de garder sa voix aussi, jusqu'au bout de la semaine.
Sur une grande partie nord, attention. Toujours beaucoup de grisailles, allez, on va dire au nord d'une ligne, Royan, Limoges, Clermont-Ferrand, Valence, Annecy. Oui, on va dire ça, grosso modo. Sauf en montagne, où le soleil brillera dès l'aube. Hein. Là, on est au-dessus de la couche nuageuse. Dans le sud-ouest aussi, pas mal de grisailles dans les départements Aquitain et Midi-Pyrénées. Bon, c'est temporaire puisque ça va se dégager au fil des heures. C'est un petit peu la différence entre le temps dans le sud-ouest et le temps sur la moitié nord. Bel ensoleillement toujours des Alpes en allant vers la Côte d'Azur, la basse vallée du Rhône, le Massif central, le Languedoc-Roussillon, le Piémont et relief pyrénéen. Et ce qui va changer par rapport à ces derniers jours, c'est que le soleil va gagner vers la Vendée, le Finistère, le golfe du Morbihan et puis aussi peut-être quelques éclaircies. Bon, on n'est pas sûr, hein, mais on l'espère, entre l'Alsace, l'est de la Bourgogne, la Franche-Comté et la région d'Annecy.
On y croit.
Les températures de cet après-midi étaient parfois basses sous les grisailles persistantes et parfois très douces près des Pyrénées. Même pas 1 degré à Saint-Étienne, 4 à Dijon, mais 21 à Saint-Paul-de-Fenouille au cœur du Roussillon. Ça, c'était cet après-midi. Demain, ça bouge pas beaucoup. Allez, au plus chaud de la journée, il fera 5 degrés à Nevers, Dijon et Grenoble, 6 à Montélimar, 8 à Clermont-Ferrand, 9 à Paris, une moyenne de 10 degrés en Bretagne, 12 à Toulouse, 13 à Hondaille, 15 à Fréjus et jusqu'à 17 à Bastia.
Merci Marlène Duré. Nouveau point météo avec vous à minuit dans un instant. C'est Top à Wall Street avec Claire Lemaître. A tout de suite sur Europe 1. Avec Claire Lemaître qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Claire.
Bonsoir Alexandre.
De boursier.com. Claire, les marchés attendaient ce soir avec fébrilité le verdict de la Réserve fédérale américaine. Comme prévu, la Fed a ouvert la voie à une remontée de ses taux d'intérêt.
Oui, la Fed qui confirme ce soir la fin de sa politique de soutien très généreuse, mise en place au tout début de la crise du Covid pour faire face à l'inflation, à la très forte hausse des prix. Elle mettra fin à ses achats d'obligations sur les marchés au mois de mars. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est une remontée des taux d'intérêt. Les marchés tablaient plutôt sur 2 hausses d'un quart de point en 2022. La Fed, elle, va plus loin. Elle envisage 3 hausses. Alors les marchés réagissent plutôt très bien ce soir à ce futur tour de vis. Et il faut dire qu'il était quand même très attendu, même s'il s'annonce un petit peu plus fort que prévu. Le Dow Jones monte de 1,08%, 35 927 points. Le Nasdaq bondit même de 2,15%. Wall Street qui tient donc plus que bon après ces annonces de la Fed.
Les valeurs technologiques qui avaient mal démarré la séance dans l'attente de ces annonces de la Fed, eh bien se sont reprise.
Oui, c'était mal parti, mais finalement, Apple bondit de 2,8%, plus 2,5% pour Amazon, plus 1,8% pour Tesla. Son directeur général, Elon Musk, a d'ailleurs été nommé personnalité de l'année par le Financial Times, 2 jours après avoir reçu la même distinction de la part de Time Magazine. Et puis le pétrole aussi s'est repris ce soir. Le baril de brut léger américain WTI s'adjuge 1%, on est à $71,50 et l'euro lui gagne 0,3% face au dollar, $1,1292.
Et enfin, le CAC 40 a retrouvé des couleurs aujourd'hui, Claire, après 5 séances dans le rouge.
L'indice qui reprend 0,47%, 6 927 points. Séance prudente tout de même, puisqu'à Paris, on attendait aussi ce verdict de la Fed. Du côté des valeurs, Veolia gagne un peu plus de 2%. La Commission européenne a donné son accord sous condition au rachat de Suez. Carrefour recule de plus de 5%. Après des spéculations lundi sur des discussions entre Carrefour et Auchan, eh bien, porte-parole d'Auchan a démenti auprès de l'agence Reuters tout contact entre les deux acteurs sur un rapprochement. Ailleurs en Europe, les marchés ont terminé dans le désordre. Londres 7,07%, moins 1,2% pour Madrid, mais Francfort gagne 0,1%. Plus 0,4% pour Milan, Amsterdam est stable et à Paris, le CAC 40 avance de 0,5%, 6 927 points.
Merci Claire Lemaître.
BNP Paribas. Banque référente des entreprises vous présente l'invité éco.
Alors, AstraZeneca vient d'annoncer un nouveau traitement préventif contre le Covid pour les personnes vulnérables. L'invité éco ce soir, Olivier Nataf, président d'AstraZeneca France. Il répond à Emmanuel Duteil. Bonsoir Olivier Nataf.
Bonsoir.
Un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes à la tête d'AstraZeneca en France, célèbre laboratoire que l'on connaît notamment pour son vaccin contre le Covid. Là, si nous avons voulu être avec vous ce soir, c'est parce que vous avez annoncé quand même une grande nouvelle, puisque vous avez annoncé des essais réussis pour un médicament contre le Covid-19. Alors, soyons très précis parce que je pense que c'est important. Il faut, et vous conseillez quand même d'être vacciné, mais ce médicament évite les formes graves pour les patients à haut risque. C'est ça l'idée, c'est un traitement que l'on prend en plus quand on est des patients à haut risque.
C'est exactement ça. Donc je me permets de revenir sur le point que vous avez souligné et qui est extrêmement important. Face à la cinquième vague aujourd'hui, la vigilance et l'attitude à adopter, c'est évidemment d'appliquer les gestes barrières et de nous mobiliser pour la campagne de rappel vaccinal, donc la troisième dose, on l'espère, pour la plupart des gens qui sont concernés. Donc il faut continuer à prioriser cette vaccination et évidemment l'application des gestes barrières.
Mais là, ça vient renforcer d'une certaine manière l'effet des vaccins pour les patients à haut risque.
Alors en fait, ce qui se passe effectivement, c'est qu'il y a malheureusement, malgré l'efficacité des vaccins, il y a un certain nombre de personnes qui ne sont pas complètement protégées, voire qui ne sont pas protégées du tout, qui n'ont pas un système immunitaire qui leur permet de fabriquer des anticorps en réponse à la vaccination. Donc ce sont des personnes qui ont des cancers du sang, des personnes qui sont transplantées, dialysées, qui ont une insuffisance rénale et dont le système immunitaire est déprimé. Et donc pour ces personnes-là, malgré 2 doses, 3 doses, 4 doses de vaccination, elles restent soit séronégatives, soit elles ont créé un nombre d'anticorps qui va être insuffisant pour les protéger.
Donc et ce médicament qui est à prendre avant d'avoir le Covid, c'est vraiment un traitement préventif.
Et donc, il y a maintenant pour ces personnes-là, effectivement, un traitement préventif donné à l'hôpital avant, effectivement, même l'exposition au virus. Et donc, c'est vraiment un traitement de prévention pré-exposition.
Et ce médicament est disponible là, depuis aujourd'hui, depuis le 15 décembre.
Alors, il a été effectivement autorisé en accès précoce vendredi dernier. Et donc, les livraisons aux différents hôpitaux ont eu lieu entre hier et aujourd'hui.
Merck et Pfizer, qui sont deux autres gros laboratoires, avaient eux aussi annoncé récemment des éléments très intéressants pour des médicaments qui permettraient d'éviter les formes graves de la maladie. Et là, ce sont des médicaments à prendre dès les premiers symptômes. Quand est-ce que vous, chez AstraZeneca, vous pensez avoir un traitement plus large d'une certaine manière qui ne concerne pas que ces patients à haut risque et qui peut tout simplement permettre de nous soigner quand le Covid arrive?
Alors, pour revenir sur ce dont nous parlons, ce traitement dont nous parlons est un traitement donc par anticorps monoclonal. Ce sont donc deux anticorps monoclonaux qui sont donnés en deux injections intramusculaires, les deux injections qui sont suites l'une après l'autre, donc en une fois. Et donc, c'est extrêmement simple d'utilisation et il y a une protection pour au moins 6 mois. La raison pour laquelle je dis au moins 6 mois, c'est que nous sommes en train d'étudier la protection à 9 mois et à 12 mois. Donc il faut le temps d'arriver à 9 mois et à 12 mois de recul pour démontrer cette protection. Mais donc, après cette injection intramusculaire, vous êtes protégé pour au moins 6 mois.
Point important, mais quand est-ce que vous aurez quelque chose de plus large?
Alors, ce médicament a aussi été étudié dans les cas de Covid positif diagnostiqué, et donc les résultats ont aussi été positifs, mais pour l'instant, ça n'est pas l'autorisation que nous avons. Donc, pour l'instant,
vous êtes confiant sur le fait d'avoir quelque chose de plus large dans les mois à venir, puisque c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte, mais c'est ahurissant, fou, je ne sais pas quel qualificatif on peut utiliser, la rapidité avec laquelle tout ça arrive, on n'a jamais vu ça dans le monde de la santé.
Oui, c'est encore une fois, ce traitement par anticorps monoclonal, il y a eu une étude clinique pour des personnes qui ont été diagnostiquées positives à la Covid et l'étude clinique est positive. Donc maintenant, il faut le processus réglementaire approprié pour avoir les autorisations d'utilisation. Mais pour l'instant, l'autre étude clinique qui avait démontré des résultats positifs était en prévention et c'est là que nous sommes principalement utilisés. Et c'est extrêmement important parce qu'aujourd'hui, les personnes qui sont hospitalisées sont ces personnes qui sont particulièrement fragiles, qui ont des comorbidités, qui répondent parfois aussi mal à la vaccination. Et donc ces personnes-là qui sont cloîtrées chez elles depuis des mois et pratiquement des années maintenant vont avoir enfin un traitement qui peut les protéger contre la Covid. Donc ça, c'est extrêmement important parce que la pression sur le système de soins et le système hospitalier est extrêmement forte. Et donc ce traitement peut vraiment aider à l'hôpital pour prévenir les hospitalisations, les cas sévères, les cas graves et évidemment les décès au bout de la chaîne.
Alors vous allez trouver ma question très étonnante, mais AstraZeneca n'a pas eu bonne presse en France avec son vaccin. Est-ce que ce médicament, il est sûr ?
Mais en fait, encore une fois, entre la presse et la réalité clinique et médicale, c'est vrai qu'il y a, quelquefois deux mondes. Donc le vaccin Vaxzevria a été distribué à plus de 2 milliards de doses, hein, 2,5 milliards de doses depuis 12 mois dans le monde entier et a complètement contribué, puisque c'est le deuxième vaccin le plus distribué au monde, à endiguer cette pandémie dans le monde entier.
Ce que vous voulez dire, c'est qu'au-delà de la France, il continue, pardonnez-moi l'expression, mais de bien fonctionner ?
Mais bien sûr, il est, comme je vous le dis, hein, encore une fois, 2,5 milliards de doses, quand on est le deuxième vaccin le plus distribué au monde, c'est quand même une réussite. Surtout quand vous savez qu'il y a à peine 12 mois, il n'y avait pas une goutte, une dose de ce vaccin qui était existante, distribuée, produite. Donc en fait, cette campagne vaccinale a été extrêmement efficace et couronnée de succès. Et on a appris effectivement à anticiper et à gérer les effets secondaires qui ont pu se présenter et qu'on a pu effectivement découvrir. Je ne vais pas nier ce point.
C'est-à-dire qu'il a été évolué. Il a évolué aujourd'hui, votre vaccin. Voilà. Vous dites qu'il est plus sûr aujourd'hui que quand il est sorti il y a un an.
C'est une question aussi de connaissance, plus que d'évolution du vaccin en soi, et on en apprend tous les jours sur les vaccins, et en particulier, par exemple, sur la durée de l'immunité, où là aussi, il y a eu des données qui ont été présentées et qui sont aussi intéressantes pour le vaccin Vaxzevria en termes de durée d'immunité après deux doses. On en a appris aussi sur les schémas qu'on appelle hétérologues, où on donne le vaccin d'AstraZeneca, puis un vaccin ARN messager, où on a vu aussi des résultats intéressants arriver.
Et on sait que ça fonctionne, puisque c'est ce qui se passe aujourd'hui en France.
Lieu, effectivement, dans l'autre sens. Et puis, il va y avoir aussi le développement d'une forme de ce vaccin contre différents variants ou un variant en particulier. Et donc, vous voyez que le développement continue et l'utilisation continue dans le monde entier.
Eh bien, merci beaucoup, Olivier Natta. Je rappelle que vous êtes à la tête du laboratoire AstraZeneca en France. Merci d'avoir été avec nous. Nous, on se retrouve demain, 22h20.
Merci à vous, Emmanuel Duteil. On vous retrouve également avec Elisabeth Assayac de 13h à 14h sur Europe 1 pour La France Bouge. Votre invité sera demain le patron de colis privés, le mois de décembre étant bien sûr le plus chargé dans ce secteur.
Tous les jours vers 22h20, retrouvez l'invité éco avec BNP Paribas. PME ETI, changez d'échelle avec la banque référente des entreprises. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change.
Le chômage à la une des échos demain, jeudi 16 décembre, avec ce feu vert à la dernière réforme du quinquennat Macron, puisque le Conseil d'État a définitivement validé le nouveau mode de calcul des allocations chômage. La grève à la SNCF annoncée pour vendredi, un TGV sur deux, oui, on vous en parle ce soir sur Europe 1, sur le réseau Sud-Est. C'est ce coup de chaud qui s'annonce sur Noël. C'est la une de Libération, Libé, qui dévoile aussi les visages d'une partie des 27 migrants naufragés de la Manche. Ils étaient 27, oui, à périr le mois dernier en tentant la traversée. Libération a retracé le parcours de 11 des victimes. En Ukraine, l'Europe redoute une attaque de la Russie, rappelle Le Figaro, alors que Moscou masse des troupes près de la frontière ukrainienne. Eh bien, l'UE multiplie les mises en garde et promet, comme les États-Unis, de lourdes sanctions contre la Russie en cas d'intervention armée. Enfin, cette photo, également à la une du Figaro, cette rare scène de manifestation de juges, d'avocats, de greffiers pour qui la colère monte. À Paris, signe de leur mésentente avec le garde des Sceaux, le rassemblement pour réclamer davantage de moyens s'est tenu à Bercy, devant le ministère des Finances. 22h30, vous êtes sur Europe 1. Olivier Delacroix vient de nous rejoindre. Bonsoir Olivier.
Bonsoir mon cher Alexandre.
En très grande forme. Attention, vous avez un peu de crème solaire sur le coin du visage.
Oui, pardonnez-moi. pas encore. Quand même.
Pas encore.
Quand même.
Encore.
À partir de demain. Bon. Tout va bien ? Tout s'est bien passé ?
Tout s'est très bien passé.
D'accord, très bien. Bon, eh ben, écoutez, nous sommes en forme, bien évidemment. Puisque c'est notre dernière soirée de 2021, en tout cas pour l'équipe de la semaine.
Ouais.
Et à partir de demain, c'est Sana et Exactement. Sabine qui assureront la fin de
qui
cette belle année 2021. Donc l'année sera féminine, terminera en beauté.
Pour voilà. votre Donc rendez-vous, vous, effectivement.
Vous serez en belle compagnie, mon cher. On se retrouve tout à l'heure,
à 23h.
À tout à l'heure.